Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va essayer de terminer un peu rapidement, peut-être. C'est toujours très rapide. Hein, mais... Donc, si vous voulez, après avoir vu les addictions, soit avec drogue, soit sans drogue, cette fois, on va essayer de voir comment on peut sortir de cette question. Parce que la question des gens qui sont en addiction, c'est en fait une immense souffrance. Et donc, bien entendu, il y a deux grands types de souffrance, la douleur, que j'appelle physique plutôt, et puis une douleur psychique que j'appelle souffrance, si vous voulez. Donc, la souffrance, je crois que je n'aurai pas le temps de l'aborder, et donc, ben, ça sera... l'année prochaine, si vous le voulez bien. Donc on va se centrer quand même sur la douleur, hein, si vous voulez. Et la douleur, pour les physiologistes, on ne donne pas ce nom de douleur, mais si j'utilise le terme, personne ne comprend rien. Donc pour nous, au point de vue, le point de départ, c'est une sensation, et donc c'est une perception intransigeante, comme on va le voir un peu, et qui ne va pouvoir être appelée douleur que lorsque on aura traité ces éléments qu'on appelle les effets nociceptifs. Alors là aussi, pas de panique, hein, nociceptif, ça vient de nocere, qui veut dire ce qui est douloureux en fin de compte, hein, mais pour nous c'est ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire le point de départ de la douleur. Et lorsque le système nerveux, le cerveau, traite ces informations, alors progressivement on en a une représentation, et l'ultime représentation, c'est ça qu'on appelle la douleur. Voilà, donc du coup il y a un phénomène physiologique, exactement comme pour les autres organes sensoriels, parce que c'est un système sensoriel. Par exemple, si on prend la vision, vous avez la lumière, ce sont des photons, qui sont chargés d'une certaine énergie, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une sensation lumineuse, si vous voulez. Mais au fur et à mesure où le cerveau traite ces informations, peu à peu, on commence à avoir une représentation visuelle. On a la vision, c'est-à-dire des formes, des mouvements et de la couleur, en clair. Eh bien, pour la douleur, c'est à peu près la même chose. Au départ, le point de départ, c'est la nociception. Et puis ensuite... bien entendu, on va essayer de voir un petit peu les voies de la douleur, en somme, donc cette nociception. Et puis, alors ensuite, on va essayer de voir comment on peut s'y prendre, quelle est la signification de cette douleur, oui, et que donc là, on va retrouver nos vieilles connaissances, que sont les opioïdes endogènes, c'est-à-dire... les encéphalines et les endorphines, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, je vais reboucler sur ce qu'on a vu précédemment. Et puis, reste un dernier point, c'est plus les applications, c'est-à-dire un petit peu des centres médicaux qui sont maintenant, de par la loi, doivent être implantés dans tout centre de soins. Mais ce sont des centres d'évaluation de la douleur et de traitement de cette douleur, en quelque sorte. Alors, bien entendu, c'était une bataille qui a été très longue, je vous le décrirai un peu, et tous les centres de soins ne sont pas encore équipés de ces centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Voilà, alors, donc ça c'est la trame générale. Alors maintenant, voyons, si vous voulez, la nociception elle-même. Donc d'abord, là aussi encore un terme encore d'origine latine, hein, c'est, ou même grec, algie. L'algie, c'est ça vient d'algos, qui veut dire justement ce qui marque, c'est-à-dire en gros à nouveau la douleur, en quelque sorte, ce qu'on va essayer d'éjecter. Et le traitement de cette douleur, cette nociception, ces sensations nociceptives, finalement, révèle des affects, des émotions d'une intensité très très forte, très prégnante, et qui vont donc venir bouleverser l'existence du sujet, en quelque sorte, hein, de la personne. Alors, on va voir les caractéristiques. Et comme c'est un système sensoriel, on a toujours trois points à analyser. Tout d'abord, les capteurs, donc les capteurs nociceptifs, c'est assez rudimentaire comme système, mais très efficace. Deuxièmement, les voies nociceptives, c'est-à-dire comment, depuis la périphérie, c'est-à-dire sur la peau ou l'intérieur des muscles ou des tendons ou autres, ou là où il y a le point de départ de la douleur, comment on va acheminer les informations tout en les traitant à tous les niveaux adaptés jusqu'au centre supérieur, c'est-à-dire le cortex cérébral en quelque sorte, et à ce moment on va avoir la représentation de ce qu'on a, de cet affect qu'on appelle la douleur. Alors ensuite, bien sûr, on va essayer de s'approcher des messagers chimiques qui sont mis en cause, je l'ai déjà un petit peu évoqué, hein, c'est-à-dire les neuromédiateurs. Celui qui est essentiel, c'est la substance P. En tout cas, on l'a pensé pendant longtemps, puis après on s'est aperçu que les neurones qui fabriquaient la substance P étaient toujours associés avec les neurones qui fabriquaient du glutamate, et que donc du coup on a compris que l'un ne va pas sans l'autre, que la substance P est le point de départ d'une production de glutamate. Et alors là, à ce moment, bien entendu, ça change un peu de nature, parce que le glutamate, je l'ai déjà évoqué souvent dans les conférences, il a une réputation de grand excitateur. Voilà, et c'est le grand excitateur, c'est-à-dire ça va complètement révulser tout le système nerveux, en quelque sorte, hein, au point que le glutamate peut provoquer des crises d'épilepsie et tout un tas d'autres choses, quoi. Et là, en général, c'est qu'il manipule des ions qui sont indispensables pour le fonctionnement du cerveau et qu'on appelle le sodium, voilà, en gros. Hein. Donc voilà, on a cette chaîne-là, libération de substance P qui, en cascade, va donner du glutamate qui, à ce moment, va provoquer une excitation, pour pas dire une surexcitation. Et si, selon l'intensité du point de départ, c'est-à-dire du traumatisme, en un mot, alors à ce moment... c'est une surexcitation qui devient un traumatisme, en clair. Alors ensuite, bien entendu, assez vite on a compris que par rapport à cette excitation, c'était mis en place depuis belle lurette, c'est-à-dire depuis, je pense, l'évolution, hein, c'est-à-dire déjà chez les insectes, et puis à plus forte raison chez les vertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les primates, eh bien, on s'aperçoit que toujours se côtoie la substance P, donc cette substance P qui va être le point de départ de la sensorialité douloureuse. Et P, pour vous, un moyen mnémotechnique, c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, c'est une façon de s'en rappeler, c'est l'initiale de pain en anglais. P-A-I-N, et donc la pain, c'est la douleur, hein, en gros. Donc la substance P cohabite en permanence avec les encéphalines et les endorphines. Hein, et que donc, du coup, on a commencé à se dire, mais peut-être bien que c'est un système antagoniste, un peu comme le yin et le yang, si vous voulez, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, cette substance P ne va pas sans les opioïdes endogènes. Et que du coup, peu à peu, on a commencé à comprendre qu'effectivement, dès qu'il y avait sécrétion de substance P, immédiatement, ça déclenchait une sécrétion d'encéphaline et d'endorphine, et que du coup, ça permettait de tenir le coup, quoi, en gros. Et donc, plus on a de substance P, plus on a de glutamate, plus ça va déclencher des productions massives d'encéphaline et d'endorphine. Alors, je vous l'ai un petit peu déjà expliqué, là, il y a deux ou trois séances, qu'on avait des systèmes avec des sortes de poupées russes, en quelque sorte, qui, par le système endocrinien, libèrent des grandes quantités de peptides, le big ACTH, là, et qui va permettre de donner et les endorphines et les encéphalines à des doses, on va presque dire industrielles, quoi, du coup. Et du coup, peu à peu, on a commencé à comprendre que toutes les fois qu'il y avait une surexcitation et qu'il y avait donc une forme de stress, pour ne pas dire de traumatisme, automatiquement, ça engendre des sécrétions d'encéphaline et d'endorphine. Et que du coup, on a commencé à comprendre comment on fonctionnait dans certaines addictions, et de façon plus générale, dans notre activité, c'est-à-dire le meilleur exemple, c'est celui par lequel on a commencé à comprendre, c'est le sport, la pratique du sport. En fait, comme l'idée c'est de toujours dépasser les limites, eh bien on se place en état de stress, et se placer en état de stress, bien entendu, ça provoque des sécrétions de substance P, mais en contre-coup, ça provoque des sécrétions d'encéphaline. Et du coup, ben, vous avez le bénéfice d'un plaisir suffisamment grand pour pouvoir recommencer, quoi, en gros. C'est-à-dire, bon, ça coûte, mais en même temps, si vous l'avez fait, vous avez la récompense. Et de ce fait, peu à peu, vous avez les sportifs qui se prennent au jeu et qui, dès qu'ils s'arrêtent de pratiquer leur sport, sont malades, sont malheureux comme des pierres, en gros. Donc, ils reprennent l'entraînement, ils reprennent la compétition. Et tout ce qui est passé dans le langage populaire maintenant, c'est-à-dire bon, la quête d'adrénaline, de décharge d'adrénaline, bah, c'est pas autre chose que de chercher à être dans un état de stress permanent, et du coup vous avez les surrénales qui sont énormes, qui crachent à gros bouillons de la noradrénaline, que c'est pas l'adrénaline vraiment, et qui du coup déclenche des quantités colossales d'encéphaline. Voilà, et donc ça qui amène qu'on voit que la plupart de nos contemporains sont drogués à une suractivité, une hyperactivité, on va dire, pour faire simple, quoi. C'est-à-dire, bon, on ne peut plus prendre le temps de méditer ou de sublimer, non, il faut passer à l'acte immédiatement. Ben, le retour, c'est que vous mettez en état de stress, et donc vous avez la plus-value, c'est finalement les décharges d'encéphaline. Alors, donc ça, ce système de ces endorphines et encéphalines, c'est finalement un système qu'on appelle par excitation. Alors je pousse un petit peu parce que c'est déjà un terme freudien, mais c'est quand même ça l'idée, c'est que par rapport à un traumatisme qui amène une surexcitation, eh bien on a des systèmes qui permettent de supporter cette surexcitation et qui donc va parer, d'où le terme, hein, parer à cette excitation. Et ce sont donc encéphaline, endorphine. Et quand on regarde comment ça se passe, ben en fait, ces encéphalines et ces endorphines, ces opioïdes endogènes, eh bien, finalement, sont couplés avec le système GABA, finalement. Et le GABA, c'est donc le frère ennemi du glutamate, dont j'ai parlé précédemment pour l'excitation. Et bien entendu, le GABA, c'est le grand inhibiteur, et ce grand inhibiteur, il utilise son joker, c'est justement le canal chlore. Voilà. Et que donc, du coup, ça provoque une grande inhibition quand le chlore peut rentrer dans les cellules, et du coup, ça fait le pendant de ce que fait le glutamate qui lui fait rentrer du sodium, et donc, du coup, on retrouve toujours la formule magique du chlorure de sodium, qui est notre milieu intérieur. Et notre milieu intérieur, au passage, il a la même concentration de chlore de sodium que l'océan. Et que du coup, c'est tout simplement parce que nous sommes des anciens poissons et que du coup, on est adapté à ce milieu. Voilà, donc du coup, la nociception va de pair avec finalement la source de plaisir. Hein, la source de déplaisir va forcément de pair avec la source de plaisir, et puis l'inhibition va forcément avec l'excitation. Et lorsque le par excitation ne joue pas son rôle, soit physiquement, soit psychologiquement, ben bien entendu, c'est un traumatisme. Et pour peu que ce traumatisme soit répété, alors à ce moment, c'est ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique. Bon, alors, on en a tous les jours pléthore, hein, il suffit de voir le spectacle des différentes guerres et différentes catastrophes, tous les humains qui supportent ces situations, eh bien, sont tout le temps en situation de traumatisme, en fin de compte. Alors bon, je pense simplement à la Syrie ou même au Sahel ou beaucoup d'autres lieux où il y a des bouleversements. Et ce qu'on a pu découvrir progressivement, ou toutes les guerres d'une façon générale, ou tous les mouvements de foule, même les révolutions, on va dire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, que l'on soit victime de ces grandes catastrophes ou que l'on soit acteur, de toute façon, personne n'est indemne. Alors ça va jusqu'au point que on a toujours parlé pendant très longtemps des prisonniers dans les camps de concentration, par exemple, hein, et c'est trouvé que certains auteurs ont été interviewés, les bros, que ce soit les chefs de camp nazis, Auschwitz ou ailleurs, ou bien même ceux qui ont procédé au génocide des Hutus, je ne me rappelle jamais, enfin bon, victime ou bourreau, de toute façon on a des états de stress post-traumatique, de toute façon, et ça se joue, mine de rien, essentiellement au niveau de l'inconscient, bien entendu, au niveau des rêves, bien sûr, et le rêve à ce moment, au lieu d'être assez agréable, ben, il est traumatisant, c'est-à-dire c'est un cauchemar, quoi, en gros. Voilà. Et donc même les bourreaux sont rattrapés par leurs actions. Enfin, bon, là, ça vous amène à dire que la nociception et les opioïdes endogènes sont vraiment basiques dans le fonctionnement, non seulement du corps, mais également de l'esprit, quoi. C'est-à-dire rien n'est vraiment gratuit, rien n'échappe à cette mémoire somatique et psychique. Alors maintenant, si vous voulez, voyons un petit peu comment on arrive jusqu'en haut du traitement, au plus haut niveau du traitement de ces éléments nociceptifs, au niveau du cortex cérébral, en quelque sorte. Ben, bien entendu, depuis très longtemps, on sait que le cortex cérébral lui-même envoie des ordres dans les niveaux sous-jacent en quelque sorte, et que donc du coup il est possible de contrôler cette douleur finalement, hein, du coup. Donc le premier temps, c'est d'essayer de faire une évaluation. Alors ça, je peux vous dire, dans les années 70, on faisait des évaluations de la douleur en permanence, en notant simplement les comportements des animaux. Il n'y a aucun doute que les animaux qui subissent des effets nociceptifs fuient. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, ça a été dénié que les animaux ne souffraient pas. Et puis ensuite, par la suite, bien entendu, puisque les animaux ne souffrent pas, les enfants ne souffrent pas, les vieillards ne souffrent pas, etc. Hein, mais bon, voilà. Là, c'est incroyable le décalage qu'il y a entre la biologie et la médecine. Hein, dans ces années 70, ça a été épouvantable. J'y reviens un tout petit peu. Mais bien entendu, l'animal crie de même. Donc, eh ben, vous reconnaissez de toute façon que ce soit l'animal. Alors, quand je dis animal, pour moi, celui que j'ai pratiqué, c'est le rat. En gros, je travaillais sur le stress dans ces années, début des années 70. Et donc, ben, non seulement le rat se débat et fuit, cherche à fuir, mais en plus, il crie, quoi, il le manifeste, quoi, hein, et puis une fois qu'on connaît les communications des animaux, il n'y a aucun doute, que ce soit un porc, ou que ce soit une vache, ou que ce soit un rat, il manifeste bigrement, quoi, en gros, et de la même façon un enfant, de la même façon beaucoup de personnes. Et bien entendu, avec les humains, ben, on a accès à la parole à ce moment. Alors, donc, il a fallu du temps, mais maintenant, je crois que la bataille a été gagnée, je vais vous l'expliquer. Bien, on a la possibilité, face à une situation douloureuse, de demander au patient une évaluation de cette douleur qui soit qualitative et quantitative. Et à partir de là, on va pouvoir prescrire des analgésiques, c'est-à-dire des substances qui vont contrer la douleur, c'est-à-dire finalement des opiacés ou des opioïdes, quoi, hein, pour faire simple. Alors bien entendu, ça veut dire que ben là, on peut passer en revue quelques antalgiques. Eh bien là, ce qu'il y a de bien dans les organisations internationales, c'est que malgré le fait que les différentes professions soient assez récalcitrantes, il y a quand même des normes qui sont quand même publiées qu'on doit plus ou moins appliquer. Et là, c'est le cas de l'OMS qui a fait des prescriptions et qui donc édicte dans quelles conditions on doit utiliser des antalgiques non opioïdes ou bien des opiacés faibles ou bien des opiacés forts. Voilà, c'est-à-dire, à ce moment, le monde médical est tenu d'utiliser les éléments. Voilà, c'est très bénéfique d'avoir une vision un petit peu surplombante. Tout ça est le résultat, finalement, du procès de Nuremberg. Comme vous le savez, c'est là que l'éthique médicale a été imposée, en découvrant que Auschwitz était tenu par des médecins nazis, en quelque sorte, et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et qu'à partir de ce moment-là, les règles ont été édictées que jamais plus on ne pouvait intervenir sur un humain sans lui demander son avis, sans lui expliquer clairement la situation et de ce qu'on pensait bon pour lui, etc. C'est-à-dire, là découle, il a fallu quand même attendre 1981 pour faire un comité d'éthique, en gros, dans toutes les structures, mais peu à peu. Et bien entendu, le contre-coup, c'est que cette éthique médicale rejaillit sur l'expérimentation animale et même sur les animaux d'élevage. Et donc, du coup, on ne peut pas faire vraiment n'importe quoi, donc, heureusement. Voilà, c'est pour dire que ça a une portée éthique assez énorme. Et du coup, ça amène à une discussion sur l'éthique médicale. Et là, il y a quand même trois grandes périodes qu'il faut voir, quoi. La médecine depuis l'Antiquité, avec, pour faire très simple, Hippocrate et Galien, puis tous les autres anciens, en gros, qui avaient un principe, c'est primum non nocere, c'est-à-dire finalement d'abord ne pas nuire. Voilà. Alors ça fonctionnait assez bien, parce que c'est pas l'opium qui manquait, on faisait une solution, laudanum, etc. Et on pouvait à ce moment prescrire des quantités d'opium dans les grandes douleurs sans aucune difficulté. Et puis, deuxième temps, c'est la catastrophe, je l'ai déjà évoqué, mais je reviens encore dessus parce que ça a quand même été traumatique, où les États-Unis, comme je vous l'ai dit de mauvaise foi, déclarent la guerre totale à la drogue. Bon. Ok, il faudrait bien peut-être de voir qu'est-ce que ça implique, mais bon, aussi bien de la chimie que des paradis fiscaux, etc. Mais bon, tout devient stupéfiant. Et que du coup, le contre-coup, c'est que, par je ne sais quel lobby, la République française a capitulé par rapport à la position des USA et a adopté le même comportement, c'est-à-dire finalement blocage de distribution d'opiacés, on va dire, d'une façon générale. Voilà. Ce qui a amené des scandales incroyables par rapport aux maladies qui entraînent de grandes douleurs, où les gens n'étaient pas soignés, enfin, ils étaient soignés d'un point de vue physique, mais pas du tout d'un point de vue de la douleur. Quoi. Et donc, ça a duré quand même longtemps, puisqu'il a fallu attendre à peu près la période de 1985 à 1990, pour dire 95, où là, je pense juste deux noms qui ont été marquants pour moi en tout cas, c'est d'une part Ronald Melzack, américain, qui a expérimenté sur la morphine, tout simplement. Je vais vous donner quelques exemples. Et puis, le relais a été pris par Jean-Marie Besson, à Paris, qui, lui aussi, toutes les fois qu'il pouvait prendre la parole dans les congrès de neurosciences, en l'occurrence, devant la moitié ce sont des médecins, en gros, eh bien, disait, à Lyon même, il y a encore 10 ans, 12 ans, je peux vous le demander à genoux, prescrivez de la morphine quand les gens souffrent, quoi, en gros, et en particulier les enfants. Quoi, hein. Alors, peu à peu, ça s'est assoupli, et donc, du coup, on va essayer de voir ça. Alors, maintenant, que la situation est redevenue à peu près normale, après avoir fait une peut-être analyse grâce à Meljac et à d'autres, un sociologue en particulier qui a essayé de comprendre pourquoi il y avait une telle distorsion entre la médecine en Grande-Bretagne et la médecine en France, donc je vous raconterai ça. Heureusement, des centres antidouleurs ont été constitués, au moins sur les textes de loi, puis quelques-uns timidement se sont mis en route. Et donc, je vais prendre juste trois exemples, mais en restant bref, hein, d'un peu loin, parce que j'aurai pas le temps, je pense. Hein, ça passe très vite. D'abord, la bobologie, c'est pour s'amuser, c'est-à-dire ça vise plutôt les enfants, pour pas dire les nouveau-nés même, en quelque sorte, avec quelques personnes en pointe qui prennent au sérieux les difficultés des enfants, mais on sait que cette douleur ressentie par les enfants est très sous-estimée, et que de toute façon, bien souvent, c'est difficile d'y parer, et là, je vous donnerai juste une petite enquête qui a été faite, EpiPain. Et puis, un deuxième exemple, qui vise plus les adolescents, alors là, c'est le grand sujet de l'addictologie, c'est-à-dire la spécialité médicale qui s'intéresse aux addictions, en quelque sorte. Alors là, vous connaissez le rôle précurseur et franc-tireur de Claude Lichtenstein, en quelque sorte, les centres marmottants, etc. C'est-à-dire, nous qui avons soi-disant le meilleur service de santé au monde, il a fallu qu'ils se battent contre des montagnes incroyables, et les problèmes sont toujours pas réglés, quoi. Hein. Alors il y a eu quand même plusieurs intermédiaires, hein, alors que les projets méthadone, même les réalisations, les plans méthadone étaient florissants aussi bien en Belgique qu'en Hollande qu'en Grande-Bretagne. Nous, c'était toujours des émeutes parce qu'il y avait une boutique qui devait ouvrir, quoi. Vous vous rappelez de la bataille entre finalement les différents ministères. Je pense en particulier, il a fallu attendre. La toile de fond, c'était finalement l'infection du VIH, qui faisait que les héroïnomanes faisant des injections se contaminaient et obtenaient le sida, finalement, et que là, Léon Schwarzenberg, donc en 88, est resté 8 jours à sa place, tout simplement parce qu'il a dit il faut dépister les femmes enceintes par rapport au sida, et deuxièmement, il faut légaliser la consommation de drogue pour pouvoir la contrôler par l'État, etc., et faire échec aux trafiquants, quoi. En gros, alors, là, il a pas traîné. Heureusement, Michel Barzac, l'année d'avant, a pu obtenir de faire des échanges de seringues, en tout cas, de revenir à ce qui s'était passé avant 70, c'est-à-dire la vente libre des seringues et des aiguilles, en somme, ce qui faisait que, à ce moment, les héroïnomanes n'étaient pas obligés de prendre des seringues usagées, en quelque sorte. Et donc, du coup, on a pu bloquer en partie l'évolution de l'épidémie de sida, en somme. Et puis, ensuite, il y a eu une boutique, puis deux, puis trois, c'est-à-dire à Paris, puis à Marseille, puis timidement à Lyon, une boutique méthadone, c'est-à-dire c'est un autre élément. Donc, à côté du plan d'échange de seringues, il y a eu ce plan de substitution aux opiacés, à la morphine ou à l'héroïne, et qui était la méthadone. Alors, il y avait déjà 15 ans que tout se passait bien dans les différentes villes européennes et américaines, et nous, on en était toujours à en faire une expérimentale, quoi, en gros. Et puis, bien souvent, on s'est aperçu qu'il y avait plus de policiers que de médecins autour de ces boutiques, et donc, du coup, la solution qui a été prise, c'est de faire des bus méthadone à ce moment, pour aller là où les héroïnomanes se trouvait en quelque sorte. Alors bon, là aussi, ça a pris beaucoup de temps. Et puis, ça a été accepté, et enfin, maintenant, nous avons le dernier contre-coup, c'est-à-dire d'ouvrir des salles, ce qu'on appelle de shoot, c'est-à-dire d'injection et de consommation, on va dire. Alors là aussi, c'est des hauts cris, en gros, alors que ça fait 10 ans que ça existe à Genève, et qu'il y a, je crois, maintenant 90 salles de shoot de par le monde. C'est-à-dire, on a une expérience extraordinaire. Ça a été d'une grande efficacité au Portugal. C'est d'une grande efficacité au Portugal, etc. C'est-à-dire, bon, quand on écoute les médias, on se fait un peu bourrer le mou en disant vraiment, la médecine est en pointe en France, machin. Mais en fait, c'est pas vrai. Hein, on traîne les pattes comme c'est pas possible, en gros. Bon alors, le troisième point, donc à côté des enfants et des adolescents, ben, c'est plutôt une tranche d'âge un peu plus âgée, bien souvent, même si c'est pas toujours le cas, que j'appelle algologie, c'est-à-dire la science de la douleur, enfin, donc de comment contrer la douleur, et qui envisage finalement différentes solutions. Il n'y en a qu'une qui pour le moment est légale et qui est quand même déjà assez bien, c'est la loi Leonetti. Donc là, on peut dire qu'il y a au moins un consensus, mais c'est quand même peut-être un peu juste par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Ce sont donc les soins palliatifs, ou bien la question de l'euthanasie, ou bien une multitude d'autres termes qui s'appellent le suicide assisté. Bon, tout ça est en pleine ébullition puisque un rapport a été demandé au président du comité d'éthique, c'est-à-dire SICAR, de rendre son rapport, de faire un rapport sur justement la façon d'aider à mourir de façon digne, en quelque sorte. Donc là, le rapport a été rendu, et donc, ça amène beaucoup d'éléments. Alors peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, là, bien sûr, il y a une biblio qui est assez dense, je vous en donne juste peut-être deux ou trois qui se trouvent en collection de poche, hein, Loewenstein, ces dépendances qui nous gouvernent, en poche, par exemple, ou Le Joyeux, déjà du plaisir à la dépendance, par exemple. Un autre ouvrage extraordinaire, c'est Gérard Pirlot, Psychanalyse des addictions, hein, qui est vraiment magistral. Et puis, j'ai parlé de Pomereau, Xavier, là, nosado.com en images, et puis peut-être deux dictionnaires qui permettent alors de retrouver tous les éléments, tous les termes que je vous ai donnés. Ces deux dictionnaires, c'est Daniel Paul, dictionnaire encyclopédique des drogues chez Ellipse, ou bien Richard et Seton, dictionnaire des drogues, toxicomanie et dépendance chez Larousse. Avec ça, bon, vous aurez éventuellement de quoi passer des soirées assez fortes. Bon, alors ça, ben, on le verra une autre fois si vous voulez bien. Je vais essayer de changer de... Je vais revenir maintenant à vous montrer des images pour, en quelque sorte, illustrer mon propos. Bon, alors, donc, reprenons tout ça. Maintenant, vous avez un petit peu une ligne générale. Voyons un petit peu quelques éléments. Donc, ça, vous le connaissez, c'est la nociception. Voyons les capteurs, les voies, les centres. Et puis ensuite, les neuromédiateurs. Et puis... les contres, en quelque sorte. Alors, donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un point de départ douloureux? Eh bien, voilà une section de la peau, d'épiderme, en quelque sorte, et vous apercevez que, juste en dessous de l'épiderme, il y a une multitude de capteurs, qui sont des mécanocapteurs pour la plupart, plus un cas particulier, qui est ce dispositif qui est très très simple. Ce sont finalement des dendrites d'un neurone mais qui n'ont aucune protection, c'est ce qu'on appelle des terminaisons libres. Voilà, c'est-à-dire, il y a une ramification de ces dendrites, et donc, dès qu'il y a, admettons, une épine, ou bien un scalpel, ou bien quoi que ce soit, qui vient, en quelque sorte, toucher cette petite dendrite, là, et bien immédiatement, elle va transmettre son influx nerveux, et donc ça va se traduire au niveau du neurone par une sécrétion de substance P. On va essayer de voir comment ça se passe. Mais c'est ça les capteurs essentiels que nous avons donc sur l'ensemble de notre peau, et puis à l'intérieur aussi de nos organes, en quelque sorte. Alors voilà un peu plus de détails ici. Alors voilà des mécanorécepteurs là qui vont apprécier les pressions en somme, et donc on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le tact. Mais avec ces capteurs là, on va avoir le point de départ nociceptif. Alors donc vous l'avez ici le système là sur la peau donc, avec ce récepteur. Et à ce moment, vous avez un neurone, voilà son corps cellulaire, en quelque sorte. Ça, c'est donc la dendrite, corps cellulaire. Et puis ensuite, voilà, l'axone est ici, il vient se projeter sur un autre neurone de la moelle épinière. Voilà, donc le premier niveau de traitement de l'information, c'est la moelle épinière qui traite. Est-ce qu'elle peut réagir? Alors à ce moment, il y a un réflexe qui se met en route. Si jamais ça la dépasse, si ça dépasse ce niveau, alors à ce moment, on fait remonter l'information sur les étages supérieurs. Voilà, alors voilà un exemple, hein, c'est qu'on atteint le tronc cérébral, là, et avec, par exemple, le raphée, les noyaux du raphée, énormes, là, donc là il y a la sérotonine qui va donc bien entendre, là, on l'a ici, hein, l'élément. Et donc cette sérotonine va venir en retour, venir inhiber en quelque sorte la source de substance P. Voilà, c'est-à-dire on voit que déjà le niveau juste supérieur rétroagit sur le niveau inférieur. Voilà. Et alors on va monter les niveaux comme on va le voir, et on va retrouver toujours le même élément. Donc voilà, on est au niveau du tronc cérébral. Ici, donc voilà, on a l'information, il traite, il peut, et à ce moment il répond à sa base, en quelque sorte. Si jamais c'est hors de ses compétences, alors à ce moment, qu'à cela ne tienne, il envoie à l'étage supérieur. Alors là, l'étage essentiel, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est la substance périaqueducale, qui elle aussi est essentielle pour la perception de la douleur, et beaucoup d'anesthésies sont justement tributaire de cette zone-là, et donc les anesthésiques viennent en quelque sorte agir sur cette zone périaqueducale. Voilà. Alors le même processus se passe, hein, si jamais ça ne suffit pas, on envoie sur les centres supérieurs. Donc je continue à grimper et monter comme on veut. Hein. Voilà, donc on a là la substance grise périaqueducale, on voit que le système peut arriver jusqu'au thalamus, ici. Et puis ensuite, il va être dispatché dans tous les centres corticaux qui sont concernés. C'est ce qu'on appelle la somesthésie, donc la sensibilité somatique, si vous voulez, dont une partie concerne les problèmes douloureux. Et bien entendu, en retour, en violet, vous les voyez, ces centres vont réagir sur le thalamus, et puis ensuite vont revenir, redescendre, sur la substance grise périaqueducale qui va redescendre, comme ça, alors on peut le reprendre, hein, voilà. Voilà, et donc voilà, ça monte et ça descend en permanence, c'est-à-dire qu'il y a communication toujours dans les différents étages. Donc chaque étage traite les éléments qu'il peut, mais quand il est débordé, il passe au-dessus, exactement comme une structure administrative, hein, je pense à la police qui va informer la préfecture, qui va informer le ministère de l'Intérieur, qui va remonter Premier ministre ou je ne sais quoi. Et en même temps, le Premier ministre prend son téléphone et puis il dit quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas dans ta préfecture? Et puis bon, et puis ensuite c'est les adjudants-chefs qui répercutent, quoi. Voilà, on a la même structure. En gros, prend les décisions Voilà, alors, ça, c'est le premier point, c'est une ligne générale. Maintenant, si vous voulez, un tout petit peu plus de détails sur, quand même, ces voies. Donc, bien entendu, le premier centre intégrateur, c'est la moelle épinière. Et, dans la moelle épinière, c'est cette zone-là qui est très importante pour notre propos. Pour qu'on le comprenne un peu mieux, on grossit cette corne antérieure, là, et on s'aperçoit qu'ici, c'est la zone 5, on appelle la substance gélatineuse. Et c'est là que l'intégration se fait, c'est-à-dire le traitement de l'information s'effectue. Et comme vous pouvez le voir, cette zone gélatineuse bien, reçoit des fibres assez grosses qui sont nociceptives A delta, c'est le nom de la classification, et puis d'autres qu'on appelle les fibres C qui sont toutes petites et qui sont non myélinisées. Alors, la caractéristique de ces fibres, qu'on va dire nociceptives ou douloureuses, si on veut, eh bien, c'est que les informations parviennent à leur destination relativement un peu lentement, mais le corollaire, c'est qu'il y a priorité absolue à leur acheminement. C'est-à-dire, vous pouvez être occupé par différentes choses, différentes activités. De toute façon, s'il y a quelque chose de douloureux, vous ne ressentez plus rien d'autre que cette douleur insupportable. Voilà, c'est-à-dire, elle va relativement lentement, un mètre par seconde ou quelque chose dans ce goût-là, mais en même temps, c'est impératif. Voilà, c'est un impératif catégorique. Voilà, vous ne pouvez plus penser à autre chose qu'à cette douleur lorsque vous la ressentez. Alors, à ce moment, on s'aperçoit que, bien entendu, vous avez les voies. Ces voies, là, elles sont là, voilà, voie paléospinothalamique, par exemple, ou bien néospinothalamique, bon, peu importe les noms, c'est simplement le point de départ puis l'arrivée, hein, tout converge sur le thalamus, et pour cela, je suis obligé de monter un peu d'un étage, et là, vous retrouvez la matière grise périacducale qui va être très importante. Voilà, alors, donc, les informations remontent, arrivent toutes dans le thalamus, voilà le thalamus, hein, des deux côtés, et puis un relais dans le système limbique, bien entendu, puisque le système limbique, c'est ce qui va générer les émotions, cette émotion de peur panique du fait de cette douleur, donc ça va être un ressenti, et puis tout de suite projeté sur le cortex cérébral, comme on peut le voir dans différents endroits, etc. Donc à ce moment, on a à peu près l'information qui arrive quand même relativement très vite au cortex cérébral, qui se représente la situation, qui analyse le milieu en quelque sorte, et qui envisage une stratégie pour échapper à cette douleur, et donc soit on retire la patte, soit on fuit, soit on détruit l'agresseur, enfin bon, il y a 56 façons, vous retrouvez ça en permanence quand vous faites mal, en quelque sorte. Alors, si vous voulez, maintenant, revenons encore un petit instant sur le point de départ de la nociception. Alors voilà, vous avez en gros une peau qui vous protège, mais modérément quand même, hein, une peau qui est très fragile et qui donc, il peut y avoir une effraction. Voilà. Alors bien entendu, cette effraction, elle est très facile, mais il faut intervenir. Il va falloir, d'une façon générale, couvrir la blessure, c'est-à-dire finalement parer à cette blessure, hein, non pas simplement la douleur, mais vraiment refermer la plaie, en quelque sorte. Et donc, dans le même temps, on a une information qui va être déduite de cette effraction, c'est-à-dire il y a des cellules qui sont broyées, comme vous pouvez le voir ici, et à ce moment, vous avez immédiatement sécrétion de substance P, ici, et cette substance P va provoquer une inflammation, et immédiatement, cette inflammation va se traduire par une arrivée, non seulement globules rouges, mais également globules blancs, qui vont donc, puisqu'il y a effraction, puisqu'il y a ouverture sur le monde extérieur, il peut y avoir des germes qui rentrent, et donc il va falloir les bloquer. Et non seulement il faut les bloquer, mais en plus, vous avez toujours dans le sang des plaquettes qui vont venir, en quelque sorte, colmater la brèche. Donc voilà, c'est un système. Donc, le système nociceptif est en plus pour que le sujet, en quelque sorte, participe activement à sa défense. Donc, vous avez les plaquettes, vous avez les globules blancs, et le point de départ de tout ça, c'est cette fibre à terminaison libre qui, en quelque sorte, sécrète de la substance P. Alors, voilà, donc voilà la vasodilatation, donc hein, si vous avez un traumatisme, bah, automatiquement ça va gonfler, et donc bah, voilà, vous avez une arrivée de sang, et avec tous les éléments pour pouvoir défendre la citadelle en quelque sorte. Hein, voilà. Et puis, troisième temps, donc vasodilatation c'est le deuxième, et le troisième bah, c'est la cicatrisation en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, bon, vous avez les plaquettes qui vont venir colmater la brèche pour pouvoir vite reconstituer la peau qui fait défaut. Et entre-temps, bah, vous avez souffert, mais voilà. Alors, quand on regarde la substance gélatineuse, au microscope avec un certain nombre de colorants, eh bien, on s'aperçoit qu'on retrouve notre substance P, toujours au même endroit. Là, voilà, ici, là, vous avez la légende. On localise la substance P dans la moelle épinière, là, bon, là, du singe, mais c'est la même chose, hein, chez l'homme, c'est-à-dire on se sert des animaux pour pouvoir comprendre le mécanisme, hein, en traitant le tissu avec des anticorps spécifiques marqués par un colorant sombre, et vous avez, voilà, donc ici, c'est donc un anticorps qui va se colorer lorsqu'il y a de la substance P, et donc du coup, vous savez que la substance P est là, et c'est au même endroit qu'on trouve l'encéphaline et les endorphines. Et ici, exactement de la même façon. C'était en rouge tout à l'heure sur le petit schéma. Là, maintenant, c'est en ocre. Voilà, alors bon, ça, je vous l'ai raconté. Hein, les capteurs, les voies, les centres. Hein, terminaison libre, les neurones qui vont donc rejoindre par les voies le thalamus et le cortex somesthésique, les aires de Brodmann 1, 2, 3. Par exemple. Et donc là, arrivé au centre supérieur, on a la perception de la douleur. Et donc, du coup, prise de conscience que quelque chose se passe mal à la périphérie. Voilà, c'est-à-dire que la douleur est une sentinelle par rapport au bon fonctionnement de notre organisme. Et que, du coup, c'est un état d'alerte si jamais il y a sécrétion de substance P. Alors, les neuromédiateurs, je vous les ai expliqués, substance P, glutamate, en très grande quantité, d'où ça entraîne une riposte des endorphines, et qui elles-mêmes sont accompagnées du GABA. Voilà, et donc du coup, on a ce dipôle, en quelque sorte, d'excitation et d'inhibition entre glutamate et GABA, et qui donc va permettre de calmer le jeu, éventuellement. Alors, les opioïdes endogènes, vous rappelez, donc les méthencéphalines, ou encéphalines plutôt, tirgliglifémètre, tirgliglifélé, et puis la substance P, là, donc c'est toujours le même John Hugh qui les a trouvés, hein, à Aberdeen, en 1974, hein. La substance P, ben voilà, les différents acides aminés, donc on voit qu'il est nettement plus long, la substance P est nettement plus fournie en acides aminés que les encéphalines. Bon, voilà les acides aminés qui composent, hein, il y en a une vingtaine, bon, peu importe, les éléments. Et donc, voilà le premier élément théorique qui a été formulé pour dire, mais alors, comment ça peut se comprendre? Eh bien, c'est assez simple. Le neurone récepteur, avec sa fibre libre qui vient d'être traumatisée en quelque sorte, qui va donc libérer de la substance P, voilà. Et puis, en retour, cette substance P qui est libérée va provoquer une sécrétion d'encéphaline en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est un système régulateur. Donc, du coup, il y a des boucles de rétroaction. Bon, là, bien entendu, on n'en était pas encore là, mais on a compris assez tôt, on va dire dès 80 et quelques, que 78 même, comment ça pouvait éventuellement se goupiller. Et puis ensuite, on a compliqué le modèle en s'apercevant qu'on avait bien le neurone qui a été traumatisé, qui va donc, en quelque sorte, recevoir la substance P, enfin le neurone à substance P, qui lui-même va être contrôlée par le neurone encéphaline, mais lui-même, ce neurone encéphaline, est contrôlé par les neurones à sérotonine qui viennent des centres supérieurs. C'est-à-dire là, on a commencé à comprendre que les centres supérieurs avaient leur mot à dire et que donc, du coup, la douleur, c'est jamais que, effectivement, un équilibre entre substance P, encéphaline et puis sérotonine qui provient du centre supérieur. Et ensuite, on a encore compliqué le modèle en s'apercevant qu'il était plus compliqué. Mais enfin, là, c'est à nouveau, on a encore cette figure du modèle de Calder qui vient et on réagit sur une branche et automatiquement, ça va déclencher tout un tas de réactions. Alors là, bon, c'est le système qui est reconnu par tout le monde. Et même quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que on a tous les types d'opioïdes circulants, que ce soit les encéphalines ou les endorphines. Et là, voilà la corne antérieure, là, ici, juste une toute petite partie. Voilà le neurone qui a été en infraction. Et voilà la substance P qui vient finalement donner les informations de départ. Et automatiquement, vous avez les encéphalines qui peuvent être repéré tout autour, en quelque sorte, on voit qu'on a vraiment un environnement indissociable entre substance P et encéphaline et endorphine, bien sûr. Et puis, enfin, dernier élément, l'élément qui monte sur les centres supérieurs là, pour aller, là, dans ce cas-là, atteindre le thalamus. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est la périphérie, et là, ça va aller vers les centres. Alors, bien sûr, il y a en fin de compte une théorisation, et là, c'est Melzac qui l'a théorisé, c'est la théorie de la porte, hein, qui essaye de comprendre comment, finalement, les fibres à gros diamètre, A bêta, viennent converger sur la cible. T, c'est target, hein, en anglais, donc c'est la cible, c'est-à-dire la zone qui va être lésée, en quelque sorte, pour donner le message nociceptif. On a également des fibres à petit diamètre, C par exemple, qui convergent sur la même cible. Et puis, vous avez la substance gélatineuse qui reçoit ces informations ici et qui vont venir encore moduler encore une fois. Voilà, c'est-à-dire on a quatrième niveau de régulation, c'est-à-dire c'est très très subtil pour que, en quelque sorte, il y ait prise de conscience du danger, mais qu'en même temps, ce danger qui se manifeste par des douleurs intenses soit quand même supportable pour que vous puissiez élaborer une stratégie de survie, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, j'insiste pas trop, mais retenez ce nom, je vous l'ai déjà signalé, c'est Melzac, qui est un des hommes qui a le mieux compris le système de la douleur. Alors, voyons ces douleurs. D'abord l'évaluation, puis ensuite les règles pour utiliser les antalgiques prescrits par l'OMS, et puis deux ou trois éléments sur l'éthique médicale. Alors voilà, par exemple, le précurseur de l'évaluation qualitative et quantitative de la douleur, vous pouvez la connaître, hein, c'est le questionnaire de l'hôpital Saint-Antoine, qui a été dressé, en gros, puis affiné, et tout le monde s'est rallié dessus. Alors, il y a des classes de type de douleur, voilà, vous avez des éléments, et le sujet est invité à dire quels sont les adjectifs qui traduisent en quelque sorte l'émotion plus près de cette douleur. Alors j'en lis quelques-uns, alors voilà, battement, pulsation, élancement, en éclair, décharge électrique, coup de marteau, ou bien une autre catégorie, rayonnante, irradiante, ou bien piqûre, coupure, pénétrante, transperçante, coup de poignard. Bon, alors, vous avez toute une graduation, et effectivement, selon les douleurs que vous avez la possibilité de donner le mot le plus précis possible pour caractériser la douleur. J'en donne encore quelques-uns. Pincement, serrement, compression, écrasement, en étau, broiement, tiraillement, étirement, distension, déchirure, torsion, arrachement, chaleur, brûlure, froid, glace, picotement, fourmillement, démangeaison, engourdissement, lourdeur, sourde, fatigante, épuisante, éreintante, nauséeuse, suffocante, syncopale, inquiétante, oppressante, angoissante, harcelante, obsédante, cruelle, torturante, suppliciante, gênante, désagréable, pénible, insupportable, énervante, exaspérante, horripilante, déprimante, suicidaire. Bon, voilà. Donc vous avez le choix, vous cochez, et chaque fois que vous avez coché, vous essayez de faire la quantification. Et voilà le code qui vous est proposé, hein, c'est 1, absent, 2, faible, 3, modéré, 4, fort, 5, extrême. Et donc, quand vous avez tout ce panel, alors à ce moment, bon, en gros, vous savez à peu près quel est le type de douleur dont il s'agit. Donc là, on dit, bah non, c'est pas un simulateur, ou je sais pas quoi, parce que bon, il y a déjà des milliers de sujets qui ont le même type de... Mais, bien entendu, il faut dire tout de suite que vous avez des sujets qui sont hypersensibles, et puis d'autres, complètement insensibles. On a trouvé un patient, on pouvait lui faire n'importe quelle torture, de toute façon, bon, ouais, c'est que ça gratouille, mais c'est tout, quoi. Alors là, c'est le sujet, quand il était à la Timone, il est étudié sous toutes les coutures, parce qu'on voudrait savoir comment c'est possible de survivre sans avoir de douleur, hein. Et donc, du coup, et il fonctionne très très bien, il vit normalement, si j'ose dire, c'est vraiment une énigme, et là, alors, on dit, bah, si on arrivait à comprendre comment il fonctionne dans ces conditions, on va pouvoir régler le problème de la douleur, quoi, hein, ça c'est sûr. Bon, alors voilà ce que recommande l'OMS, hein, c'est que lorsque vous avez des douleurs faibles et modérées, eh bien il faut prendre un antalgique non opioïde, l'aspirine, paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple, hein, voilà, c'est-à-dire, bon, bah, finalement, en gros, quand on fait la synthèse générale, si la douleur est entre 1 et 2, ou éventuellement 2,5, bon, bah, c'est pas la peine d'aller prendre de la morphine, quoi, en gros. Hein. Voilà, puis les sujets, bon, ça va bien, oui, c'est supportable, bon, c'est pas très agréable, mais c'est supportable. Voilà, il y a une discussion, c'est-à-dire, on voit que le fait d'évaluer, ça permet un dialogue, et dialoguer, ça veut dire qu'on peut se représenter, que du coup, on n'est pas simplement un bout de bidoche, on est un sujet qui peut donner son avis. Donc c'est vraiment l'idéal dans l'alliance thérapeutique. Deuxièmement, douleur modérée et intense, antalgique opioïde faible, plutôt la codéine, comme le Subutex, le Temgesic, ou bien antalgique ou Propofol. Bon, quelque chose qui est 10, 20 fois moins fort que la morphine. Et puis, lorsque c'est, dans tous les autres cas, violent, on va dire, alors à ce moment, des opioïdes forts, la morphine, la pétidine ou dolosal, ou bien le palfium. Voilà. Et puis, bien sûr, obligation est faite au médecin de voir toute la périphérie. C'est-à-dire, il y a des adjuvants qui vont de pair avec de telles douleurs. Voilà. Les corticoïdes, des antidépresseurs éventuellement, des antiépileptiques, du fentanyl ou du rogésic, la méthadone éventuellement, ou bien, alors ça c'est les recommandations de l'OMS, hein, c'est-à-dire peut-être que bientôt on pourra fumer un joint, vraiment on a besoin d'être laid, quoi, en gros, parce que ça, alors c'est archi connu que dans le cas de cancer, de sida et de beaucoup d'autres maladies, c'est ce qui convient le mieux, quoi. Alors, petit pas, trois petits pas du côté de la mère Marisol, bon, peut-être que vous pourrez, bon, ne brusquons pas, hein, parce que là, si jamais il y avait des petites herbes qui traînent à l'hôpital, ça ferait mauvais genre. Bon, voilà, alors bon, je vais peut-être passer, parce que là, c'est au niveau des prostaglandines et autres qui donnent le point de départ supplémentaire. Mais en gros, retenez que, justement, c'est quand même le canal sodium qui, quand il est ouvert, béant, le sodium rentre. Et là, c'est là qu'on a la surexcitation au niveau périphérique. Au niveau, pour réduire les douleurs, bah, bien entendu, on peut intervenir sur les régions péridurales, hein, ou épidurales et autres. Donc à ce moment, bien sûr, là c'est le bas de la moelle épinière, voilà le canal contient le liquide céphalo-rachidien, vous l'avez ici, et donc là on peut faire des injections ici, bon c'est pas très agréable lui-même, mais après ça permet de, éventuellement de réduire le traumatisme. Et puis enfin, si jamais c'est plus important, alors à ce moment on doit envahir le cerveau avec différents points, les différents produits qui permettent en quelque sorte de... Alors bien entendu, là quand c'est très, très général, c'est la morphine qui est utilisée. Et alors à ce moment, depuis quelques années, il y a des petites pompes, et ces petites pompes peuvent être commandées par le patient lui-même. Et on s'est aperçu que systématiquement, les patients prenaient beaucoup moins de morphine que si on le que ce qui est prescrit. Et donc du coup on fait une économie. Alors c'est pas une question financière, mais c'est une question que on perturbe pas, et le sujet se représente sa douleur et puis essaye de la contrôler. Il sait qu'il faut pas qu'il la laisse partir, parce que sinon on n'arrive plus à l'enrayer. Que donc du coup il c'est sa responsabilité de ne pas prendre trop de morphine et de rester sur la réserve de ce qui est supportable sans que ça lui échappe. Donc voilà, encore une fois, là aussi on a cette alliance thérapeutique et qui permet de réduire terriblement les doses en quelque sorte. C'est-à-dire, le sujet est actif, étant actif, bien entendu, lui-même, par la pensée, va aussi modifier sa sensibilité par la sérotonine et les autres voies, et qui permet donc de contrôler, de reprendre sa maladie, sa vie en main, en quelque sorte, dans la mesure du possible. Mais, bien sûr, certaines douleurs sont réfractaires à la morphine, et on ne sait pas trop quoi faire, et pendant longtemps, on coupait les nerfs, quoi. En gros, bon, c'est pas une solution, on cherche toujours à trouver des systèmes. Alors bon, voilà, je vous ai raconté cette histoire par rapport à l'éthique. Donc, pendant longtemps, c'était surtout ne pas nuire, et donc on n'hésitait pas à donner de l'opium. Puis, décembre 70, je crois, il y a des injonctions des États-Unis. Et donc, du coup, là, il y a carnet à souche, et puis, alors, bon, il y a même des tracas administratifs hein, pour les médecins qui prescrivent, et puis on compte combien de doses de morphine ils ont fait, etc. Bon, heureusement, après le travail de Melzac et de Besson et de tous les autres, on a pu comprendre le mécanisme, et puis surtout, une expérimentation de Melzac sur des patients cancéreux. Alors, ça que je vais vous raconter, c'est que il se pose la question pourquoi est-ce qu'on interdit la morphine aux personnes qui sont incurables et qui sont dans des douleurs insupportables. Ben, la réponse, finalement, c'est oh ben oui, on ne leur donne pas la morphine parce que sinon ils deviendraient dépendants à la morphine. Alors vraiment, ça serait con, quoi. Ils en ont pour 3 semaines à vivre. Alors, Melzac se met en pétard et dit, bon, ben, je vais expérimenter carrément. Et donc, je vais prendre des patients qui sont au dernier degré de cancer. C'est-à-dire, ils sont condamnés par les cancérologues, en gros, pour faire simple. Hein. Et il dit, ben voilà, je prends ces patients et je fais 2 lots. Un lot témoin, oh, ben, je mets placebo, quoi. Hein. C'est dégueulasse pour eux, mais bon. Et l'autre, morphine à haute dose. Ben, assez vite, il s'aperçoit que le premier lot témoin ben meurt, quoi, en gros. Et puis là, quand il regarde l'autre lot, il s'aperçoit que plus de la moitié des personnes qui utilisent la morphine survivent ressortent du cancer, en quelque sorte. Alors déjà, il commence à comprendre que la douleur est tellement envahissante, tellement traumatique, qu'il ne laisse presque plus de force pour lutter contre les cellules cancéreuses, pour faire très simple. Et que donc, forcément, à ce moment, ça veut dire que la morphine est un auxiliaire de lutte contre les cellules souches, quoi, en gros, hein, contre la division cellulaire. Alors à ce moment, les survivants, qui sont tous sous morphine, ben, ils se posent la question en disant, est-ce qu'on continue le traitement maintenant qu'ils sont... Alors, il leur pose la question, voilà, il est franc, et donc il dit, ben voilà, je crois qu'on est sorti de la mauvaise passe. Se pose à moi la question de, est-ce que on continue le traitement de morphine? Alors, tous les patients sont furieux, le regardent, en disant, mais à quoi bon la morphine, puis je suis guéri? Alors il dit, bon, bah écoutez, essayez, puis si jamais vous êtes en manque ou je sais pas quoi, vous me le dites, je suis là. Je dis, bon, un jour se passe, deux jours, une semaine, un mois, toujours rien. Alors il dit, mais vous n'avez pas d'état de manque et tout? Il dit, ben non, je suis guéri, donc... Bon, alors là, c'est une révolution. Hein. Il le publie et il l'explique très bien. Quoi. C'est-à-dire, par rapport, on va dire aux toxicomanes, si on utilise ce terme, des personnes addictes à l'héroïne, eh bien, en gros, ils se sont laissés enfermer dans une situation où ils n'ont plus aucune source de plaisir. Et que donc, du coup, l'héroïne n'est plus que l'ultime possibilité d'avoir du plaisir. Et que donc, du coup, c'est pas possible de renoncer à cette substance, en gros. Par contre, les patients cancéreux, même qui souffrent énormément, eh ben, vraiment, ils ont gardé leur mode de vie, ils ont gardé leur relation. Et donc, quand ils sont guéris, ben, ils reprennent leurs activités, c'est-à-dire ils ont toutes les sources de plaisir qui s'offrent à eux, et donc du coup, ils sécrètent des endorphines en quelque sorte, et donc du coup, ils ne sont pas du tout dans la même situation que les patients qui sont addictés, en gros. Et donc du coup, là, ça a été pris au sérieux, je crois, par le monde médical, et donc en gros, dans ces années 85-95, il y a eu de plus en plus de médecins qui sont autorisés à dire bon, ça commence à bien faire, mais je crois qu'il faut absolument qu'on reprenne notre liberté de prescription par rapport à la douleur, quoi, en gros. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Alors, deuxième chose, toujours dans ces années 85-90, eh bien, c'est un sociologue qui est proche de Melzac et qui essaye de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre les prescriptions en Grande-Bretagne et en France. Alors, en gros, il a deux lots, enfin quatre lots en fait, britanniques ou français. Moitié homme, moitié femme. Et il compare les quatre solutions. Et il s'aperçoit tout de suite, ce sociologue, que en Grande-Bretagne comme en France, les femmes prescrivent deux fois moins de morphine que les hommes. Bizarre, quoi. En gros, les femmes ont quand même une connaissance de certaines douleurs impitoyables, etc. Et puis, deuxième chose qui saute aux yeux très vite, eh bien, c'est que les Britanniques, hommes et femmes, prescrivent deux fois plus de morphine que les Français. Une femme aussi. Alors c'est là qu'il commence à dire, mais quelle est la différence entre part et d'autre de la Manche? Il n'y a qu'une solution, c'est que la France est restée foncièrement catholique et que la Grande-Bretagne est foncièrement anglicane, c'est-à-dire protestante. Alors quand il pose les questions alors dans ce sens, c'est que en gros, les catholiques disent, ils ne le disent pas comme ça, mais ça revient à ça, disant, ben, Dieu a créé la douleur, il y a sûrement une raison, et donc du coup, il faut probablement gagner son paradis sur terre. En gros, hein, c'est-à-dire, tu enfanteras dans la douleur, etc. Enfin, tous les stéréotypes qui se déroulent. Et puis, quand il va s'entretenir avec ceux qui sont plutôt protestants, alors à ce moment, chez les protestants, il y a aussi ce même mouvement, ce premier mouvement, disant oui, Dieu a créé la douleur, donc la douleur est respectable. Mais il rajoute un petit alinéa, il dit oui, mais Dieu a aussi également créé la morphine, et donc du coup, il y a sûrement une raison, et donc du coup, ça serait vraiment complètement stupide de s'en priver, quoi, en gros. Et donc, forcément, ça veut dire qu'en gros, il y a une idéologie quoi, qui est derrière et qui est assez profondément enracinée au point que ça ne peut pas arriver à la conscience, mais on dit la douleur a en quelque sorte un rôle à jouer. Le rôle qu'on lui attribue maintenant, en tout cas, de façon rationnelle, c'est justement une alerte, une alarme. Il y a quelque chose de dangereux et donc il faut intervenir. Alors, si vous voulez, les centres antidouleurs, je vous donne juste quelques exemples. Donc la bobologie, voilà par exemple le papyrus d'Hébert, c'est 1300 ans avant Jésus-Christ, qui donne la recette lorsqu'un enfant pleure. Voilà, remède pour chasser les pleurs. Donc c'est écrit ici probablement, ça c'est mieux lire, être fidèle à la traduction. Mais comment on fait pour contrer? Ça c'est le fruit du pavot. Voilà, fruit du pavot, excréments de mouches qui sont sur un mur, faire un mélange, en prendre pendant 4 jours. Voilà, donc ça veut dire que c'est le codex des Égyptiens en quelque sorte. Il y a longtemps qu'on connaît les propriétés. Alors voilà par exemple un médecin qui est à Paris, qui s'appelle elle-même bobologue, c'est pour ça que a dû créer sa spécialité de bobologie, et vous voyez comment elle se présente aux enfants. Voilà, alors elle a toute la panoplie, là, c'est marqué Chantal Wood, bobologue. Voilà, et donc du coup, elle s'est occupée des enfants malades, et donc, elle a un feeling pas possible, et les enfants sont très très vite en confiance, et paraît-il, d'après l'article du Monde qui fait son portrait, elle s'en voit comme c'est pas possible. Elle a toutes les embûches presque pour essayer de traiter la douleur des enfants. Et pourtant, ça marche de façon fabuleuse, il n'y a pas de traumatisme et autres, et du coup, elle s'en voit. Et donc, voilà une autre étude qui a été faite sur la douleur du nouveau-né qui est sous-estimée. Donc, voilà c'est la légende, ça. Ça date de 2006, mais ça n'empêche que jusqu'aux années 1970, le corps médical pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur. Il a été établi scientifiquement que la perception de la douleur est en réalité possible dès la 24e semaine de vie intra-utérine. Voilà. Alors ça, c'est dans le même temps, les années 70, où beaucoup d'études ont été faites dans les crèches à Paris. Et si vous voulez avoir les résultats, c'est des copains qui travaillaient dans la physiologie sensorielle, c'est-à-dire l'audition, l'olfaction et autres. C'est le petit opuscule qui s'appelle l'aube des sens et qui donne, entre autres, les informations que un des premiers organes sensoriels, c'est l'olfaction. D'abord, au cinquième mois embryonnaire, on analyse parfaitement ce que mange notre mère, en quelque sorte. Et puis, deuxièmement, une série d'études ont été faites sur l'audition des fœtus, en l'occurrence, donc au cinquième, sixième mois. Et là, les copains ont fait entendre les différents types de musique possibles à des fœtus au sixième mois. Et puis, à la naissance, on a rediffusé les musiques, et le critère pour savoir si l'enfant, le nouveau-né, a déjà entendu cette musique, on prend la succion simplement. Il a une tétine, et puis il y a un système automatique qui donne... Et quand il y a quelque chose de familier, l'enfant se met à téter, en quelque sorte. Et donc, du coup, là, on a les morceaux de musique qui ont été diffusés lorsqu'il avait 6 mois embryonnaire, et bien là, il les reconnaît, en quelque sorte. Et alors, on a toute une intensité selon les groupes musicaux. Et celui qui obtient toujours tous les suffrages, le maximum de suffrages, c'est Mozart, en quelque sorte. Et alors, l'équipe est allée voir des papous et des aborigènes dans les forêts amazoniennes, et ça a été la même chose, les mêmes résultats, tout à fait parallèles, c'est-à-dire vraiment le succès absolu, c'est Mozart. Donc, pour vous dire que s'il peut reconnaître de la musique à 6 mois, à plus forte raison, quand il y a de la douleur, bien entendu, il est parfaitement conscient, et il peut reconnaître, et il a une mémoire, et bon, voilà, c'est... Alors, l'enquête qui a été faite toujours dans ces années 2006, c'est EpiPine, sur 431 nouveaux-nés en réanimation, on a épluché 30 161 gestes qui sont présumés plus ou moins douloureux. Et bien voilà, en tête, c'est l'aspiration dans la tranchée, 33%, 28% de ponction de sang au talon, et puis 18% décollage cutané d'adhésif. Tout un tas de raisons de décoller les adhésifs, mais c'est douloureux quand même pour la petite peau, en cas douce. Hein. Les ponctions vasculaires viennent après, et les sondes gastriques, etc. Et si vous voulez avoir plus de tuyaux, il faut aller voir ça. Voilà, donc ça veut dire que là, les nouveau-nés ont finalement beaucoup de douleurs. Hein. L'accueil est peut-être un petit peu difficile. Peut-être, maintenant passons à un petit peu plus l'adolescence. Et donc, il y a des services, une protection judiciaire de la jeunesse, qui, on n'a plus de crédit, on n'a plus de fonctionnaires, on n'a plus ni psychologue, ni psychiatre, ni plus rien. Bon, c'est la dèche complète. Et donc, du coup, forcément, certains adolescents ont des difficultés à trouver des soins ou des références en quelque sorte. Bon, voilà, donc Claude Alvenstein, qui a fondé le Centre Marmottan et a fait beaucoup pour tous les humains addictés. Donc, voilà quelques. Je pense que je vous ai donné l'essentiel. Hein, donc, non seulement la bataille pour les seringues, mais en plus les boutiques par rapport à la méthadone, et puis maintenant les salles de shoot. Hein, donc, vous voyez, de 1983, on va dire, à 2013, avant qu'on prenne vraiment au sérieux les problèmes des personnes qui sont sous addiction. Alors, donc, je crois que je l'ai évoqué, mais je le redonne. Le sevrage des opiacés, hein, donc ce sont des douleurs dans l'abdomen et les muscles, qui sont très haut niveau, hein. Des angoisses avec des insomnies et parfois de l'agitation, des troubles neurovégétatifs, comme des diarrhées, des sueurs, des sensations chaud-froid. Le traitement, eh bien, on utilise un certain nombre d'éléments pour réduire tous ces troubles et surtout l'hypertension artérielle, par exemple. Et puis, des antidouleurs non opiacé dans un premier temps, le Diantalvic, par exemple, des calmants, des somnifères, des mieux relaxants, donc des benzodiazépines, en gros. Hein. Alors bien entendu, ça aussi, ça rend, ce sont des stupéfiants, donc ça rend aussi dépendant, mais après, chaque chose en son temps. Le premier temps, c'est de sortir de la dépendance aux opiacés, et puis dans un deuxième temps, on verra les benzodiazépines, bon, on peut l'utiliser pendant 2 mois, or, la durée est assez courte, donc en gros, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, des médicaments réduisant les symptômes, comme les diarrhées, les vomissements, c'est tout le tube digestif qui est forcément chahuté, en quelque sorte. Et puis, on rajoute encore d'autres traitements, l'ibogaïne, par exemple, des anesthésiants, ou l'analoxone, c'est-à-dire l'antagoniste de la morphine. Et par exemple, pour sortir de l'héroïne, il faut à peu près 1 semaine. Et pour sortir de la dépendance de la méthadone, elle-même, c'est plutôt 7 semaines. Voilà. Donc ça implique vraiment un suivi médical, hein, c'est-à-dire que ça ne peut pas être fait par simplement un éducateur, hein, il faut vraiment une infirmière et un addictologue, ou au moins un psychiatre, ou en tout cas un médecin, en tout cas, de toute façon, pour contenir le syndrome dépressif post-sevrage, hein, parce que le drame, c'est que le toxicomane, si j'utilise encore ce terme impropre, est accroché à sa drogue, en quelque sorte, mais il va falloir qu'il fasse le deuil de la seule source de plaisir qu'il a, hein, dit. Et donc du coup, là, ça l'amène à résoudre le problème par l'absurde, quoi, c'est-à-dire faire disparaître le problème en supprimant lui-même, quoi. Voilà, c'est une grosse dépression, et donc il peut ceci. Du coup, il faut traiter cette dépression par des antidépresseurs. Et la sortie du sevrage, ben, c'est deuxième chose, c'est que puisqu'on est sorti du sevrage, ben, il risque l'overdose. Si jamais il reprend la moindre dose, il est vraiment très exposé. Donc là aussi, il faut une alliance, il faut faire beaucoup de choses. Et donc, ben, ça souligne l'importance du suivi et des conseils à donner aux usagers dépendants qui effectuent le sevrage. Voilà, donc du coup, ça ne peut pas être fait n'importe comment. Alors voilà, quelques exemples d'éléments sur la légalisation des drogues dures, en somme. Donc là, il y a une polémique qui a été heureusement soulevée par un magazine qui s'appelle Books. Alors, voilà, je l'ai même amené là. Qui date de 2010, voilà, qui donc traite un petit peu de ces questions, donne des arguments pour un petit peu changer. Et donc voilà par exemple une vue d'une salle de shoot qui est à Genève, qui s'appelle le centre Kenoff, qui existe depuis une dizaine d'années. Et beaucoup de Français passent la frontière pour aller profiter de la structure. Alors, bon, c'est quand même incroyable qu'on soit encore à dire oh, est-ce que la Gare du Nord pourrait héberger une salle de shoot à Paris, pourquoi pas éventuellement à Marseille. Bon, c'est assez étonnant, d'autant qu'il y a maintenant, au dernier pointage, 90 salles de shoot de par le monde. Voilà, alors donc ben voilà un exemple que je ne vais pas donner encore. C'est que dans ces salles de shoot, ça peut être bien sûr des injections, mais ça peut être aussi la prise de substances dans un lieu calme, un lieu où il n'y a pas trop d'excitation et autres, pas trop de policiers non plus et autres. Et puis surtout, la discussion, quoi, les thérapies qui s'initialisent de cette façon. Bien sûr, là aussi, des polémiques. Seuls la méthadone et le subutex sont autorisés comme substitution et de plus en plus de toxicomanes, on va dire, revendiquent que les centres donnent accès à de l'héroïne. Il y a des études qui ont montré que finalement l'héroïne bien dosée était moins ravageuse que la méthadone pendant très longtemps, elle n'aurait plus à sortir, etc. Bon, c'est dire, bon, c'est assez étonnant, c'est vraiment là, comme le dit le journal, là, c'est un traitement stupéfiant, quoi. Mais bon, je ne sais pas, il faut réfléchir. Peut-être juste une référence qui est donnée dans cette revue, c'est Moïse Naïm, le livre noir de l'économie mondiale, chez Grasset, 2007, et lui ce qu'il prône, c'est ni prohibition, ni légalisation, mais simplement une analyse de la situation. Alors je vous lis juste la légende. Si l'on veut comprendre comment fonctionne le monde des drogues, il faut arrêter de le considérer d'un point de vue moral et légal. Voilà. C'est-à-dire, donc, c'est probablement d'avoir une vision assez froide de ce qui se passe, sans mettre de la morale à tire-larigot, c'est-à-dire, en gros, je pense qu'il faut que ça soit libre, mais réglementé de façon très stricte, comme on réglemente les médecins par rapport à la diffusion de la morphine, et à ce moment, ben, c'est l'État qui contrôle, et à ce moment, les substances seront pures, et à ce moment, ben, le dosage est facile, et donc du coup, il n'y a déjà plus de overdose, et puis la morphine qui est saisie de par le monde, ça coûte rien du tout, en gros, puisque c'est saisi, plutôt que de brûler, autant l'utiliser. Mais je crois que ça mérite d'être réfléchi. Alors, pour finir, parce qu'il faut qu'on s'arrête, enfin, moi je m'arrête plutôt, ces centres d'évaluation, ben, traitement de la douleur, il y a bien entendu beaucoup beaucoup de choses qui sont sur la sellette, donc peut-être d'abord la loi Leonetti par rapport à des souffrances insupportables et même éventuellement des souffrances existentielles, et puis éventuellement plusieurs possibilités. Là encore, la Suisse est vraiment précurseur. Donc si vous voulez, je vous lis les cinq articles de la loi Leonetti qui fait un assez bon accord, mais qui peut-être devrait être amendé. En tout cas, il va y avoir les discussions, je crois, au comité d'éthique en septembre, et donc par la suite, il y aura peut-être une loi qui modifiera un tout petit peu. Donc, premier article, la loi maintient l'interdit fondamental de donner délibérément la mort à autrui. Deux, en revanche, elle énonce l'interdiction de l'obstination déraisonnable, est considérée comme déraisonnable l'administration d'actes inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 3. Le respect de la volonté des patients, l'appréciation du caractère déraisonnable et le fait du patient s'il est en état d'exprimer sa volonté. Sinon, le médecin prend la décision après avoir recherché la volonté du patient, par consultation de personnes de confiance, mais également de la famille, ou bien de ses directives anticipées et respect avec une procédure collégiale. C'est-à-dire que ce n'est pas un médecin seul qui peut prendre la décision. Il faut qu'il ait son équipe qui soit d'accord, en quelque sorte. C'est-à-dire, bon, je crois que c'est une bonne chose. La préservation de la dignité des patients, donc 4, hein, la préservation de la dignité des patients et l'obligation de leur dispenser des soins palliatifs lorsque les traitements considérés comme l'obstination déraisonnable sont arrêtés ou limités. La loi fait obligation aux médecins de soulager la douleur, hein, et de respecter la dignité du patient et d'accompagner ses proches. Il y a tout un tas d'obligations qui va avec l'acte. Et 5, la protection des différents acteurs est assurée par la traçabilité des procédures suivies. Voilà, donc c'est-à-dire on doit pouvoir faire une enquête administrative et savoir qu'est-ce qui a été fait, qui a pris la décision, qu'est-ce que... Voilà, alors là voilà, une unité de soins palliatifs de la Maison des Dames du Calvaire, là, porte bien son nom là, forcément. Déjà quand vous rentrez, vous êtes ça tout de suite au parfum. Tout va bien passer. Ça mériterait peut-être une petite renommation. Là. Par informatique, c'est vraiment rien à renommer un fichier. Ça pourrait quand même être un petit peu revu. Bon, voilà, là aussi, ça fait longtemps qu'il y a un personnel fantastique hein, qui accompagne... Les personnes mourantes, on va dire, hein, jusqu'à leur dernier souffle, finalement. C'est un lieu de vie, également. Et puis, ben, les questions qui sont incontournables depuis longtemps, hein, est-ce qu'on peut légaliser l'euthanasie? Alors voilà deux points de vue opposés. Donc, Marie de Henzel qui dit « Pourquoi réclamer une loi pour encadrer ces pratiques, alors qu'il faudrait de toute évidence changer les conditions de la mort dans notre pays et s'efforcer tous ensemble de l'humaniser. » Et puis, répond Henri Cavaillet, qui est membre du Conseil consultatif national de l'éthique, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. « Nous sommes dans la même situation d'interruption de vie que l'IVG. L'euthanasie est une liberté individuelle essentielle. C'est un acte attentatoire au droit, mais dans certains cas, le devoir de conscience l'emporte sur la loi. » Et puis, tout récemment, le Conseil de l'Ordre vient un petit peu de changer de point de vue, assouplit beaucoup sa position par rapport aussi bien à l'euthanasie active que au suicide assisté. Et donc là, ben, vous voyez, donc en vert sombre, c'est tout à fait favorable. Voilà, c'est ici, là, tout à fait favorable. Plutôt favorable, ici. Tout à fait opposé, ici, là, voilà, tout à fait opposé. Voilà, on voit bien, bien contrasté en quelque sorte. Et donc quand on réunit les éléments, donc on voit que ça, c'est en train de basculer. C'est-à-dire, bon, déjà l'ensemble de l'ordre est plutôt favorable, au moins à la discussion. Et le suicide assisté, comme ce qui se passe en Suisse, donc là, tout à fait favorable, tout à fait opposé. Quand on prend les éléments, 39 contre 58. Ouais, donc du coup, il y a encore des réticences, mais donc, elles sont bien compréhensibles. Vous le trouvez le 16, c'est dans le Monde du 16 février de cette année. Oui. Ah oui, ou qui demande à en finir, quoi, qui n'en peuvent plus. Enfin, non, ça c'est simplement des opinions, pas encore. Oui, bah oui, il faut que ça soit quelque chose qui soit insupportable, quoi. Et que du coup, est-ce qu'on s'acharne à soigner, ou bien est-ce qu'on peut déjà intellectuellement envisager que, oui, puisqu'on a plein de voisins qui le pratiquent et qui apparemment n'amènent pas de gangstérisme, quoi, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'assassiner les gens. C'est une mort douce, en quelque sorte, qui est prévue, avec, en gros, la personne qui le demande, et si elle-même ne peut pas, parce que vous pouvez être dans l'impossibilité de parler, alors à ce moment, quels étaient ses désirs au préalable auprès d'une personne en qui elle a complètement confiance, ou ses représentants légaux, quoi, la famille, en gros. Oui, c'est-à-dire, on sent que ça fluctue. Et puis alors là, c'était le 19 décembre 2012, un témoignage extraordinaire de Maurice Tubiana, qui justement dit, ben moi j'ai 95 balais, c'est épouvantable. On ne peut plus faire grand-chose, etc. Et il donne son avis sur une euthanasie éventuellement. Voilà, je vous lis juste, c'est cette partie-là qu'il soulignait dans la sortie du texte. Accompagné de certaines précautions, l'euthanasie stimule le désir de vivre en donnant l'assurance que si l'existence devient une torture physique ou mentale, il pourra y être mis fin. C'est-à-dire, bon, alors là, il était cancérologue, et donc du coup, bon, il connaît toutes les cas de figure, et lui-même, donc, est concerné un peu, et donc, il dit, ben, voilà, pour vivre jusqu'au bout, ben, c'est quand même bien de dire, ben, si vraiment je n'en peux plus, aidez-moi. Bon, voilà, alors il faut que je m'arrête. Merci pour votre écoute.